Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. L'accord sur le nucléaire iranien devrait être déchiré ce soir par Donald Trump. Le président américain y semble déterminé, malgré les inquiétudes exprimées par les autres signataires de l'accord. Journée historique pour l'Arménie, le chef de l'opposition, Nicole Pachignan, a été élu Premier ministre par le Parlement. À Air France, les syndicats veulent rapidement reprendre les négociations. Trop tôt, répond la direction. Le PDG Jean-Marc Janaillac doit officialiser sa démission le 15 mai. Le tapis rouge est déroulé à Cannes. Le festival s'ouvre ce soir avec Everybody Knows du réalisateur iranien Asghar Farhadi. Antoine Guillot est sur place pour France Culture. Que restera-t-il ce soir de l'accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015 à l'issue de 21 mois de négociations? Pas grand-chose si l'on en croit les déclarations successives de Donald Trump. Le président américain a qualifié ce compromis de pire accord jamais signé par les États-Unis. Il devrait donc officialiser ce soir sa décision. Grégory Phillips, vous suivez le dossier depuis Washington. On sait que Donald Trump et Emmanuel Macron se sont parlé cet après-midi. On s'oriente manifestement vers une restauration des sanctions à l'encontre de l'Iran.
Oui, alors en vérité, il est assez légitime de penser que si le président américain a appelé tout à l'heure le chef de l'État français, c'est pour l'informer de la décision qu'il va dévoiler dans 2 heures maintenant depuis la diplomatic room de la Maison-Blanche. Le New York Times, il y a quelques minutes, croit savoir que Trump a dit à Macron que les États-Unis allaient se retirer de l'accord et réinstaller des sanctions à l'égard du régime iranien. Pour l'instant, aucun commentaire ici de la part de la Maison-Blanche. L'Élysée fait juste savoir que les deux hommes ont évoqué les questions relatives à la paix et à la stabilité au Moyen-Orient. Pas d'autres détails. De toute façon, Aurélie, on sera fixé maintenant très rapidement. Il y a encore 3 options sur la table. Tout à l'heure, Trump peut donc décider de réimposer les sanctions économiques qui visent le régime de Téhéran, levé en 2015. C'est évidemment, et au fil des minutes qui passent, l'hypothèse la plus probable. Deuxième hypothèse, les sanctions restent suspendues au moins pour quelque temps, le temps de trouver un nouvel accord, mais ça, plus personne n'y croit. Troisième hypothèse, il peut aussi ne rétablir qu'une partie des sanctions, par exemple sur le pétrole, pour accentuer la pression sur Téhéran tout en laissant encore une place à la négociation. Mais encore une fois, la plupart des observateurs ici à Washington pensent qu'on se dirige tout droit maintenant vers un retrait des Américains.
Et alors Grégory, c'est une semaine diplomatique intense pour Donald Trump, avec notamment l'inauguration de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Il met en application la doctrine qu'il a toujours défendue.
Oui, vous avez raison. Parfois, la diplomatie, c'est assez simple. Trump, c'est « je fais ce que je dis, je tiens mes promesses », quelles que soient parfois les conséquences que ça peut entraîner. Regardez sur l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, promesse de campagne tenue. Sur le climat, promesse tenue. Sur le traité de libre-échange transpacifique, promesse tenue. Donc, il n'y a pas de raison que sur l'Iran, Donald Trump change de méthode. On verra ça dans 2 heures. En tout cas, ça plaît à son électorat. Dans la décision américaine sur le nucléaire iranien, il y a évidemment aussi des questions de politique intérieure, car il ne faut pas oublier que les élections de mi-mandat, cruciales évidemment pour Trump, sont dans 6 mois, jour pour jour.
Grégory Phillips en direct de Washington. Quelques semaines avant le sommet prévu entre Donald Trump et Kim Jong-un, le leader nord-coréen a effectué une visite surprise en Chine aujourd'hui. Il a rencontré le président chinois Xi Jinping dans le nord-est de la Chine. La télévision publique a montré les deux hommes marchant côte à côte dans un parc en bord de mer. Kim Jong-un s'était déjà rendu en Chine fin mars. Demain, un sommet sur la Corée du Nord est organisé à Tokyo. Il réunira les premiers ministres japonais et chinois et le président sud-coréen. Nicole Pachignan n'est plus chef de l'opposition, il est premier ministre d'Arménie. Seul candidat en lice, il a été élu par le Parlement arménien à l'issue d'un nouveau vote. La semaine dernière, sa candidature avait été rejetée, mais sous la pression de la rue, le parti républicain au pouvoir a fini par céder. Une page se tourne donc en Arménie et ses jours de liesse dans la capitale Yerevan, comme en témoigne le reportage de Marie-Pierre Véraud.
Un jour de victoire et de célébration par dizaines de milliers, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, familles, se sont pressés dès le matin sur la place de la République, au centre d'Yerevan, dans une ambiance de fête. C'est là que Nicole Pachignan leur avait encore une fois donné rendez-vous. 2 écrans géants y retransmettaient la séance du Parlement qu'ils veulent historique. Drapeaux, ballons, t-shirts à l'effigie du nouveau Premier ministre, leur idole dans l'opposition est désormais au pouvoir. Ils l'acclament, des danses s'improvisent, une banderole proclame « L'Arménie n'aurait jamais rêvé vivre pareille journée ». La foule scande « Victoire ». Arménie applaudit son héros, rit et pleure.
Je déborde de sentiments et il faut dire qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup pleuré de joie. C'était des larmes de joie. C'est la victoire, c'est notre victoire. Mais la justice a triomphé. Nous sommes sûrs que ça va continuer de la même manière et que le peuple arménien mérite une meilleure vie. Alors aujourd'hui, tout ne fait que commencer et chaque Arménien aujourd'hui doit faire tout son possible pour que tout s'arrange dans notre pays.
Il promet de s'attaquer aux injustices dans un pays endetté, miné par la corruption, dont plus d'un quart de la population vit dans la pauvreté, près de 20% est au chômage. La tâche est immense, note Alexander Iskandarian, politologue à l'Institut d'études du Caucase.
La lutte contre la corruption, c'est un problème systémique. Cela va prendre des années, des décennies. Le développement économique, c'est un autre problème systémique sur lequel il faudra travailler durant des décennies. Les monopoles dans l'économie, les liens entre le business et la politique sont des mots structurels, etc., etc. Il faudra des années pour cela, parce que en plus, vous avez la pauvreté, le chômage, l'émigration, et vous savez, l'Arménie n'est pas un pays si grand. Alors ce sera très important, dès le début, de voir de quelles personnes il va s'entourer.
Sans oublier que le pays est en guerre avec l'Azerbaïdjan sur le Haut-Karabakh, n'a pas que des amis comme voisins, la Turquie, la puissante Russie. L'opposant victorieux va devoir se transformer en homme d'État. Il veut convaincre la diaspora de revenir investir dans cette nouvelle Arménie. Il lui faudra aussi apprendre la patience à son peuple qui a placé en lui tous ses espoirs.
Marie-Pierre Véraud, envoyée spéciale de France Culture à Yerevan. Le nouveau Parlement hongrois a tenu sa première session ce matin. Une assemblée dominée par le parti du Premier ministre nationaliste Viktor Orban qui a obtenu la majorité des deux tiers des sièges. Depuis ces élections, sur lesquelles pèsent des soupçons de fraude, non élucidés car la commission électorale a rejeté toutes les plaintes, il y a eu de nombreuses manifestations. Le 13 avril, 100 000 personnes descendaient dans la rue pour dénoncer des élections jugées non démocratiques. Cette nuit, quelques dizaines de Budapestois ont campé devant le Parlement avant d'être délogés par la police. Une autre protestation a eu lieu ce matin, une autre vient de débuter. Florence Labruyère, vous êtes sur place à Budapest. Est-ce que les manifestants sont venus nombreux ?
Eh bien écoutez, plusieurs centaines de personnes sont déjà sur la place et les Budapestois continuent à arriver sur la place du Parlement. C'est la troisième manifestation depuis hier soir. Les gens sortent tout juste des bureaux. Alors on n'atteindra sans doute pas le nombre de 100 000 personnes qui s'étaient rassemblées ici le 13 avril, mais l'ambiance est plutôt festive. Ce matin, c'était la frustration et la colère des quelques centaines de sympathisants sur place. Ce soir, l'ambiance est plutôt décontractée. Il y a beaucoup de jeunes avec des drapeaux bleu aux étoiles d'or, le drapeau aux couleurs européennes. Alors cette manifestation ne changera rien, m'a dit une personne qui est venue manifester, mais on est là pour montrer notre soutien à l'opposition. Beaucoup d'étudiants, un étudiant m'a confié être venu manifester pour la liberté de la presse, pour montrer son opposition au quasi-monopole du gouvernement de Viktor Orban sur les médias, des médias publics et privés qui diffusent de la propagande et des fake news. Et puis un autre étudiant me disait effectivement, cette manifestation ne changera rien, mais il faut continuer à protester, continuer à représenter ces valeurs européennes qui sont si importantes pour nous.
Merci Florence Labruyère, en direct de Budapest. Que va-t-il maintenant se passer à Air France ? La question préoccupe la ministre des Transports, Elisabeth Borne, tout comme KLM, le partenaire néerlandais d'Air France. Depuis vendredi soir et l'annonce du rejet du plan salarial de Jean-Marc Janaillac, une période de flottement s'est ouverte. L'intersyndicale d'Air France veut y mettre fin rapidement. Elle souhaite revenir à la table des négociations. Mais le PDG démissionnaire n'est pas encore parti officiellement et la direction n'est pas prête, Hakim Kasmi.
Oui Aurélie, ainsi la grève est suspendue, le conflit continue, rappellent les syndicats. Ils estiment que désormais, la balle est dans le camp de la direction d'Air France. La direction d'Air France qui a rejeté cet après-midi la demande de l'intersyndicale, estimant que la période qui s'ouvre ne permet pas de négocier et qu'il faut attendre la nomination d'un nouveau patron d'ici le 15 mai prochain. Ce que contestent les syndicats, Grégoire Aplincourt, président du SPAF, deuxième syndicat de pilotes chez Air France.
Monsieur Janaillac a écrit un mail aux pilotes hier soir expliquant qu'il n'avait pas pris part aux négociations parce que ce n'était pas son travail, parce que c'était ça relevait de la responsabilité de la direction d'Air France. Aujourd'hui, il y a un directeur général Air France, il y a un DRH. Ce sont eux qui ont mené les négociations jusque-là. Je ne vois absolument pas pourquoi ils ne pourraient pas continuer. C'est un mensonge fini. Il suffit d'un mandat du conseil d'administration pour arrêter cette série très dommageable pour tout le monde. manifestement, il n'y a toujours pas de volonté de la direction d'aboutir à un résultat positif.
Faux, répond la compagnie que nous avons pu joindre cet après-midi, vu que Jean-Marc Genaillac est également le président démissionnaire du conseil d'administration d'Air France. En attendant, l'intersyndicale n'a pas changé de position, nouvelle direction ou pas, elle demande toujours une augmentation générale de 5% des salaires. Éric Fallu, porte-parole du SNPNC, syndicat d'hôtesses et stewards.
Il va falloir enfin que l'entreprise ouvre des négociations, mais des vraies négociations, c'est-à-dire ce sont des réunions où il y a une convergence qui doit s'opérer. Nous, notre demande de départ, elle est celle-là, et on la maintient parce qu'elle est justifiée mécaniquement et financièrement au regard de la perte du pouvoir d'achat qu'on a eu depuis des années.
Ce soir, les syndicats se disent prêts à faire un geste sur la hausse de salaire qu'ils demandent, mais à condition que la direction ne leur impose pas de contrepartie.
Hakim Kasmi, à la SNCF où la grève par intermittence se poursuit, la direction prévoit pour demain 50% des TGV TER et Transilien. Emmanuel Macron a présidé ce matin les cérémonies du 8 mai sur un mode traditionnel. Le chef de l'État a déposé une gerbe de fleurs et ranimé la flamme sur la tombe du soldat inconnu avant de saluer des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale rassemblés à l'Arc de Triomphe. Pendant ce temps, le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, avait choisi, lui, de commémorer le 8 mai 1945 en Russie. On retrouve Léo Vidal-Giraud à Moscou.
C'est très littéralement par une réception en fanfare que Jean-Luc Mélenchon a débuté ce matin à Moscou sa visite de 3 jours avec une cérémonie en hommage à l'escadrille Normandie-Niemen. En effet, l'histoire de ce régiment d'aviation qui lutta aux côtés de l'armée rouge contre les nazis est restée en Russie, un symbole de fraternité franco-russe très important.
L'idée, c'est de montrer que il y a une fraternité franco-russe qui fonctionne de peuple à peuple et qu'elle est indépendante des moments politiques particuliers et qu'on peut être un ami du peuple russe, souhaiter que la Russie soit un partenaire sans pour autant être immédiatement un affilié du pouvoir, ce que je ne suis pas. Mais je pense que comme l'ambiance dégrade beaucoup sur l'arène internationale, que de nouveau se présentent des risques d'une guerre généralisée et que l'impérialisme américain est plus violent que jamais, c'est extrêmement important de manifester des gestes de fraternité, de lien, de dialogue avec les Russes qui en ce moment sont montrés du doigt par certains.
D'ailleurs, pas de rencontre avec des officiels russes de prévu, mais une séance de travail avec Sergei Udaltsov, un opposant russe dirigeant du front de gauche, et surtout, demain matin, une participation au Régiment Immortel, un défilé très populaire en l'honneur aux combattants de la Seconde Guerre mondiale. Là aussi, le symbole est consensuel, même si, de spontanée qu'elle était à l'origine, cette marche des immortels est aujourd'hui largement récupérée par le pouvoir russe.
Léo Vidal-Giraud à Moscou, où Dmitri Medvedev a été reconduit dans ses fonctions de Premier ministre par les députés de la Douma, la chambre basse du Parlement russe. Il y a un an, plus d'1 milliard d'euros étaient promis en urgence à la Guyane pour mettre fin à 5 semaines de conflit social. Comment se concrétisent aujourd'hui les mesures annoncées l'an dernier? C'est ce que vous avez voulu savoir, Anne-Laure Barral. Vous rentrez de Guyane. D'après la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, plus de 80% des mesures sont déjà appliquées. En ce qui concerne l'éducation, la collectivité territoriale doit bénéficier d'une enveloppe de 250 millions d'euros sur 5 ans pour la construction de collèges et lycées. Et les communes doivent recevoir 150 millions sur 10 ans pour construire des écoles. À Cayenne, Anne-Laure, les besoins restent considérables.
Brittany est en CP, elle vit dans une petite cité de Cayenne, mais elle adore son école.
Parce que j'ai une grande cour et que je m'amuse bien, que les maîtresses sont gentilles.
Pour faire face au boom démographique que connaît la Guyane, il a fallu parfois parer au plus pressé. Des préfabriqués recouverts de dessins d'enfants font office d'école dans le quartier Zéphyr. Alexandre de Chavannes, instituteur et secrétaire départemental du SNES FSU, craint que le provisoire ne devienne permanent.
Vous voyez que cette école, elle n'a plus rien de provisoire puisque on a déjà installé des charpentes métalliques, des toits, des évacuations d'eau pluviale et on a fait des coursives en béton. Donc cette école, en fait, vu de toute manière les besoins de scolarisation, quand l'autre école sera complètement réhabilitée, les élèves iront dans cette école et cette école accueillera certainement d'autres élèves.
Pour le ministère de l'Outre-mer, aujourd'hui 80% des mesures du plan d'urgence signé l'an dernier avancent, en particulier dans l'éducation, avec la construction de 2 collèges, notamment à Saint-Laurent-du-Maroni. Mais le syndicat est vigilant sur le doublement des postes promis pour les assistants en langue maternelle, ce qui aide les enfants à apprendre le français, essentiel pour Sarah Ibion, professeure d'histoire-géographie en collège.
L'un des problèmes essentiels de l'échec scolaire, je pense, dans l'académie, c'est la question de la maîtrise de la langue de scolarisation qui est le français. Bien sûr, il y a des inégalités selon les zones du territoire, mais par exemple un collègue du collège de Saint-Georges qui est à la frontière brésilienne vous dit que les élèves ne pratiquent que dans la salle de classe pendant l'heure de cours le français. Sinon, c'est le portugais qu'ils parlent dans la cour, chez eux, de manière générale.
Arnissa est en 6e à Remire-Montjoly, près de Cayenne. Pour elle, le principal problème dans son collège, c'est la violence.
Donc, le plus souvent dans le collège, on entend des bagarres, on voit les choses qui se frappent.
Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des choses qui vont mieux depuis un an, depuis qu'il y a eu ces manifestations?
Non, pas du tout. Toujours pas. Parce que les gens continuent quand même à se fracasser et à se battre.
Pour s'occuper des 56 enfants défavorisés en 6e, il y a 34 assistantes sociales en Guyane. Et pour Anne-Laure Fleury, la représentante du syndicat des assistantes de la fonction publique, intervenir en plus des collèges dans les 165 écoles primaires du territoire va être difficile.
Nous, actuellement, nous intervenons sur toute la Guyane avec des assistantes sociales qui se déplacent en voiture pour le littoral, mais qui prennent aussi l'avion, qui prennent la pirogue pour pouvoir rencontrer les élèves. Nous avons fait, comme chaque année, des demandes de moyens supplémentaires et nous avons obtenu zéro poste.
Pour les professionnels, le plan d'urgence va permettre peut-être de rattraper le retard accumulé par la Guyane depuis des années, mais ils craignent que le temps qu'ils se mettent en place, la situation ne redevienne encore plus difficile à gérer.
Anne-Laure Barral, de retour de Cayenne en Guyane. On peut retrouver vos reportages via la page du journal de 18h sur franceculture.fr. Rituel sur tapis rouge, la 71e édition du Festival de Cannes s'ouvre ce soir et il y a foule devant le Palais des Festivals à l'heure de la montée des marches. Parmi les stars particulièrement guettées cette année, l'actrice et productrice Cate Blanchett, présidente du jury, et le duo Penélope Cruz-Javier Bardem, héros du film d'ouverture Everybody Knows de l'Iranien Asghar Farhadi. Antoine Guillot, vous avez la chance de suivre le festival pour France Culture. 21 films sont en compétition cette année et la sélection est marqué par un fort renouvellement.
En effet, Aurélie, par la force des choses, et notamment la place prééminente que prennent désormais dans la course aux Oscars les festivals de Venise et de Toronto, la compétition cannoise est cette année considérablement renouvelée et rajeunie, et donc très ouverte. Certes, dans les 21 films en course, on retrouve un des doyens du cinéma mondial, Jean-Luc Godard. Certes, un ancien palmé, l'excellent cinéaste turc Nuri Bilge Ceylan, clôturera la compétition avec son nouveau film, rajouté in extremis aux festivités, en même temps que celui du trublion Lars von Trier, persona à nouveau grata sur la croisette 7 ans après son exclusion du festival, mais à quelques autres exceptions près, ce sont pour la plupart des primo-accédants qui vont tâcher de convaincre Cate Blanchett et son jury. On attend ainsi beaucoup de l'américain David Robert Mitchell, qui nous avait terrorisé avec It Follows, d'un très mystérieux cinéaste égyptien, Abe Shaoki, qui signe un premier film dont l'acteur principal est non professionnel et lépreux, et côté français, derrière le déjà bien repéré Christophe Honoré, les jeunes Yann Gonzalez, dont Un couteau dans le cœur avec Vanessa Paradis est d'ores est déjà précédé d'un véritable buzz, et Eva Husson qui, avec Les Filles du Soleil, fait le portrait de femmes combattantes kurdes, car c'est à prévoir, Aurélie, cette année à Cannes, les femmes seront très combatives.
Merci Antoine, bonne projection et on vous retrouve demain matin en direct dans le journal de 8h présenté par Clara Lecoq-Réal. Enfin, une incroyable vente aux enchères se déroule à partir de ce soir à New York chez Christie's. La dispersion de près de 4000 meubles, tableaux et objets ayant appartenu à David et Peggy Rockefeller devrait affoler les compteurs de l'art. Il y a notamment des tableaux de Picasso et Matisse qui pourraient battre des records. La correspondance de Marco Voltaire à New York.
Vivez comme un Rockefeller, c'est le slogan de cette vente du siècle qui réunit des milliers de pièces, sculptures en bois, services en porcelaine, bijoux et surtout des tableaux de maître. Jonathan Randall est le vice-président de Christie's Amérique.
On débute ce soir avec le lot numéro 1 qui est la pomme de Picasso peinte pour Gertrude Stein. On continue avec le plus grand Matisse détenu par un collectionneur privé, puis un Monet fantastique, Nymphéa en fleurs. Il y a la fillette à la corbeille fleurie de Picasso, il y a des chefs-d'œuvre du début à la fin.
La fillette à la corbeille fleurie se trouvait dans la bibliothèque de la résidence new-yorkaise des Rockefeller. Le Monet ornait l'escalier de leur maison secondaire à la campagne. Pas un couloir, pas un salon, pas une salle à manger, sans œuvre d'art.
Ce n'était pas pour afficher leur rang social, ils n'en avaient pas besoin, ce sont des Rockefeller. C'était plutôt de dire, je vis entouré de choses fantastiques et ça enrichit ma façon de vivre.
Tous les fonds récoltés iront à des organisations caritatives. La collection Rockefeller pourrait rapporter 1 milliard de dollars, soit plus du double du record détenu par la vente en 2009 de la collection d'Yves Saint-Laurent et Pierre Berger.
La météo, de belles éclaircies demain matin sur une grande moitié nord, mais en fin de journée, une nouvelle perturbation arrivera par la Bretagne. Il faudra aussi compter avec les orages du massif central aux frontières de l'Est. Les températures varieront entre 8 et 15 degrés le matin, entre 15 et 24 l'après-midi. Il fera même 27 dans le nord-est. Ce journal a été préparé avec François-Charles Domergue.